Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
Chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Tentons toutefois de dire deux ou trois choses intéressantes. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau regard sur la ville, sur l'urbanité. C'est celui porté par Julie Marchand. Bienvenue au micro de Divergence FM. Julie Marchand, votre formation était tournée vers le patrimoine architectural. Vous avez décroché le titre de docteur en sociologie urbaine. Le goût de la transmission caractérise votre parcours de formatrice auprès de publics très divers, agents de l'État ou des collectivités locales, entreprises du secteur de la construction, citoyens et aussi enfants. En effet, vous avez conçu des parcours urbains ludiques avec trois livres destinés aux enfants de 8 à 12 ans, « Montpellier dans les pas de Guillaume »,« Montpellier dans les pas d'Augustin » et « Montpellier dans les pas de Louise », dont nous reviendrons vers Guillaume, Augustin et Louise plus tard. Votre cabinet s'appelle Connexence, X-E-N-S à la fin, mais bien sûr, on entend connaissance, ce n'est pas le fait du hasard. Il a l'ambition de comprendre et transmettre la ville. Voilà un sujet qui est un peu un fil conducteur à cette émission que nous allons aborder par cette voie. Alors, la transmission, vous conjuguez souvent un objectif pédagogique avec une méthode, le jeu, donc approche ludique, comme avec le jeu des sept protections du patrimoine que vous venez de concevoir et dont nous allons également parler. Mais d'abord, racontez-nous votre Montpellier. Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui figurent ou pas sur les cartes postales que vous aimez particulièrement, auxquels vous êtes attaché?
D'abord, bonjour. Alors, moi, mon Montpellier, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit à quoi je penserai en premier. J'aime beaucoup me promener dans l'Écusson, quand ouais. même. Et dans l'Écusson, le matin, en général, quand il n'y a pas beaucoup de monde, quand c'est un peu désert.
Quand les magasins ne sont peut-être pas ouverts.
Voilà,
encore,
c'est ça. Il y a encore les camions devant en train de livrer. Et du coup, il y a une très, très belle lumière à Montpellier à ce moment-là. Et moi, ce que j'aime, c'est le Montpellier caché, c'est-à-dire c'est le Montpellier qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, c'est les cours de nos hôtels particuliers,
oui,
par exemple.
Oui, quand on y a accès.
Voilà, exactement. Alors, vous avez le Festival des Architectures Vives, qui nous heureusement, qui nous offre ce cadeau. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, justement, des lieux comme... alors, il y a certains coins du Jardin des Plantes, et puis même n'importe quelle rue du centre ou des faubourgs. Vous avez la rue Enclos-Tissier-Sarru, par exemple. On regarde, voilà, on lève les yeux. Et en fait, on fait des découvertes tous les jours. Moi, c'est ce qui m'émerveille, c'est qu'à Montpellier, il suffit de regarder un peu plus haut. Et des fois, on découvre des choses qu'on n'avait pas vues la veille. Et moi, c'est
donc, du coup, voilà, c'est quand même cette curiosité, toujours en éveil,
oui.
qui vous permet de découvrir, de redécouvrir des choses qui, voilà, levant le nez, vers des petites beautés, le détail d'une porte.
Voilà. Ça va être ça, une porte, une fenêtre, un balcon, une cheminée, une sculpture qu'on n'avait pas vue sur la façade. Et puis parfois de très jolies choses.
Alors plus globalement, qu'est-ce que vous aimez dans cette ville? Ou pour aborder la question différemment, quand vous en parlez, des amis ou des parents de passage qui ne connaissent pas ou peu la ville, qu'est-ce que vous leur dites là pour les inciter justement à avoir un parcours de découverte bien orienté?
Alors moi, ce que je leur dis, alors puisque j'en connais bien l'histoire, généralement je leur dis surtout qu'en fait on a la chance d'avoir un centre-ville qui est aujourd'hui authentique. C'est-à-dire qu'on a une superposition des époques avec un petit peu de Moyen-Âge qui traîne, il faut avoir l'œil. Beaucoup de périodes classiques hein, avec nos hôtels particuliers dont je parlais. Et puis, on a quand même été éventré avec notre rue Foch à la Haussmann.
On a failli aller plus loin que...
Voilà.
Ça s'est arrêté à Place des Martyrs de la Résistance, comme elle s'appelle aujourd'hui, mais ça cette percée devait se prolonger.
Jusqu'à l'Esplanade.
Voilà, jusqu'à l'Esplanade.
Donc oui. Et puis après, c'est vrai qu'au niveau... pour moi, ce qui plaît à Montpellier, c'est les couleurs.
Oui.
C'est l'ambiance de la ville, d'une manière générale, puisqu'on a la chance d'avoir une pierre blanche, une très belle lumière méditerranéenne. Donc c'est vraiment... ça va surtout être sur ces aspects-là, si je dois vendre Montpellier.
Voilà. Et alors, vous connaissez d'autres villes, j'imagine.
Oui.
Là aussi, si on cherche ensemble, avant quelques secondes, le style montpellierain, ce qui caractérise la ville par rapport à d'autres villes, y compris des villes du Sud.
Je pense que c'est sa pierre quand même.
Oui.
Oui, c'est sa pierre.
Pierre de Castries.
La pierre de Castries. Alors,
comment on dit.
Il y en a plein de pierres à Montpellier, mais oui, la pierre de Castries est celle qui est la plus usitée, on va dire, en construction ancienne. Après, on a la barre de Vendargues au sol, la pierre de Saint-Géniès-des-Mourgues pour faire un peu de sculpture, la pierre de Beaulieu aussi, selon les secteurs. Donc, ça dépendait de ce qu'on souhaitait faire de la pierre, en fait. Mais elles ont effectivement toute cette caractéristique calcaire qui est blanche, un peu jaune, mais vraiment très claire.
C'est ça.
En comparaison de Toulouse, qui est la ville rose.
Bien
ou de,
sûr.
Voilà, on est sur les...
Bon, des pierres, d'ailleurs, comme vous l'indiquez, qu'on est allé chercher pas très loin. Hein, parce
c'est
que,
ça.
Bon, c'est 3, 4 sites que vous avez cités qui sont à quelques kilomètres de
Montpellier. C'est des villes de la métropole, oui.
Très bien. Alors, comme vous le savez, bon, la ville et la métropole ont beaucoup grandi. Bon, une croissance de la population, bon, à peu près 300 000 habitants pour la ville et 500 000 pour la métropole. Quel regard vous portez sur cette mutation assez forte, assez rapide, et qui s'est perpétuée depuis 10 ou 20 ans?
Alors, moi, je l'ai connue, puisque je suis arrivée à Montpellier en 2001. Mmh. Et c'est vrai que alors, l'extension forte, moi, on était déjà dans une grande ville en 2001, donc le tramway venait juste d'être inauguré quand j'ai mis les pieds à Montpellier.
À la première ligne, oui.
Voilà, et d'ailleurs j'ai failli me faire renverser par un tramway un jour, parce que je ne l'avais pas vu, mais j'étais tellement habituée à connaître Montpellier sans le tramway que c'était assez perturbant. Non, par contre, moi ce que je retiens au niveau de l'extension, c'est qu'en fait on l'a quand même mesuré. Ça n'a pas été une ville explosive, ça a été une ville où on a pris le temps. Les faubourgs ont été transformés. Alors, il y a eu des pertes, honnêtement. Et d'ailleurs, il y a eu des réactions réglementaires et de protection du patrimoine dans la foulée. Parce que
dans quel faubourg particulièrement?
Moi, je pense que le faubourg de la gare et le faubourg Figuérol, avenue de l'Odève, tout ça. Voilà, ça. L'avenue de l'Odève a peu bougé. L'avenue de l'Odève était encore dans son jus quand on l'a protégée. Mais effectivement, les secteurs de la gare ou de Gambetta-Clémenceau étaient quand même commençaient à être bien entamés. Et donc ça, c'est des évolutions urbaines dues à surtout la présence en plus de... Il faut diviser beaucoup d'immeubles parce qu'on veut faire du logement pour les étudiants. Il faut... On travaille aussi sur... c'est des destructions parce qu'il y a de l'insalubrité. Ça paraît assez logique. Et encore que, parce qu'aujourd'hui, on sait traiter un certain nombre de pathologies. Mais c'est vrai que pour moi, l'extension urbaine, en tout cas, on va dire extramuros, mais dans les premiers faubourgs, a été mesurée.
Oui, contrairement à ce qui peut se passer ailleurs, donc ça n'a pas été un ravage généralisé.
Exactement. Par contre, après, effectivement, si on va vers qui était le souhait de Georges Frêche, d'aller vers la mer, on a étendu avec des très belles zacs en soi. C'est toutes des œuvres urbaines et architecturales qui ont quand même un intérêt certain. Et on arrive à avoir une ville qui a des quartiers. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est une ville qui a des connexions. Moi, c'est ce qui... j'ai l'impression qu'on a pensé la ville par îlots, en fait.
Ah, et comme disons, pour le coup, qui sont, comment dire, sinon isolés, du moins insuffisamment branchés sur le reste de la ville, c'est
déjà ça. Et puis ensuite, connectés à la ville ancienne. C'est-à-dire que moi, ce qui me pose question, c'est qu'en fait, on a pensé, et même au niveau protection, d'ailleurs, on a un espace qui s'appelle la mission Grand Cœur, qui est dédié au permis de construire et déclaration préalable de travaux sur le secteur de la Sonneville-Centre, sur les espaces, les abords monuments historiques. Mais par contre, on n'a effectivement pas forcément de raisonnement global de l'ensemble de la ville. Et même au niveau architectural, du coup, on a eu la chance, on a 4 Pritzker à Montpellier, on a eu des pointures, on a des très beaux bâtiments faits par des architectes montpelliérains aussi, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas que des architectes parisiens qui construisent à Montpellier. Mais par contre, il manque pour moi ce petit supplément d'âme
d'aller se connecter au territoire. Par des ruptures dans le cheminement piétonnier ou un aménagement différent des espaces publics?
Je pense que c'est plutôt dans la typicité des choix qui ont été faits, des partis pris architecturaux qui ont été faits, où on est sur des zones vraiment distinctes.
Oui.
Du coup, il n'y a pas forcément de connexion ou de lien. Alors, je dirais que sur le bord du Lez, ça va, parce qu'entre Consul de Mer, Port-Marianne, tout ça, ça se tient. Mais voilà, il y a des zones comme ça qui, pour moi, sont un peu déconnectées les unes des autres et surtout qui ne prennent plus sens par rapport au territoire où on est. Et ça, moi, ça me manque, parce que je me dis qu'en fait, si je serais à Lyon... Je passe sur l'avenue de la mer aujourd'hui, je pourrais retrouver ce type de bâtiment.
Oui.
Et d'ailleurs, vous prenez les abords de la gare de Lyon-Pardieu, par exemple, où il y a des bâtiments avec les archives départementales qui ressemblent très pour trait à des bâtiments qu'on pourrait trouver à Montpellier. Donc, cette architecture internationale, je comprends que le modèle se soit répandu, etc. Mais je trouve que ça manque un petit peu d'identité locale, en fait.
C'est d'accord. Bien.
Voilà.
Alors, ça fait lien, bien sûr, à ce qu'on va aborder dans le détail au fil de l'émission. Alors, peut-être pour que les auditeurs et les auditrices retournent, quel est votre métier? Vous définissez, bon, entre autres, comme médiatrice de territoire. Bon, une formulation originale, inhabituelle.
Nouvelle, surtout, si j'ai créé mon métier.
Innovante, en tout cas. Et qu'est-ce qu'elle signifie là? Comment ce positionnement professionnel, c'est votre identité professionnelle, comment l'expliquez-vous?
Alors, en gros, moi, j'explique aux gens où ils habitent. C'est un peu la manière dont je présente mon métier, c'est-à-dire que je souhaite partager la ville à ceux qui y vivent, à ceux qui y travaillent, à ceux qui la transforment. Et du coup, pour ça, c'est ce que je vous disais, c'est cette identité de la ville ou cette ville cachée dont je parlais au début. En fait, c'est, pour moi, il y a des choses qui ne se savent pas de la ville, sauf à y mettre le nez dans les archives ou dans des bouquins des érudits du patrimoine ou de la conservation du patrimoine. Et en fait, toute cette histoire, elle a un fil conducteur, elle est importante pour pouvoir comprendre des lieux d'aujourd'hui. Je travaille par exemple pour des promoteurs avec lesquels, enfin, qui me missionnent justement pour comprendre les bâtiments qu'ils achètent, donc à la fois en histoire urbaine où ils se situaient à différents moments de la ville, à la fois en histoire architecturale, comment le bâtiment a été conçu. Et ensuite, je leur donne du coup les clés réglementaires pour pouvoir le transformer dans les règles de l'art.
Voilà. Avec une bonne compréhension, une appropriation du passé, de l'histoire du bâtiment, du site.
Et en faisant ça, en fait, je transmets de cette histoire urbaine à ces personnes-là qui s'acculturent petit à petit, effectivement, à mon contact.
D'accord. Alors, pourquoi votre curiosité s'est-elle, dès votre jeunesse, et notamment les choix que vous avez faits dans votre parcours d'études, vers ce qu'on appelle les vieilles pierres, quoi. Bon, qui est, bon, là aussi, bon, assez spécifique, quel était, je dirais, le ressort de cette curiosité, mais qui se transformait en passion et en activité professionnelle?
Alors, j'ai un papa qui est fan d'architecture, une maman qui est fan d'histoire de France. Donc, forcément,
déjà,
les chiens
vous avez
font pas
pris
des
la dose.
Chats. Donc, toutes mes vacances étaient culturelles ou presque. Donc, ça, déjà, c'est un premier point. J'avais un grand-oncle en Touraine qui était propriétaire d'un château qui avait une histoire fabuleuse avec le duc de la Trémoille.
Enfin, bon, dans quel coin?
À Chinon.
À Chinon.
Voilà. Et puis, donc, ça sème des graines tout au long du parcours. Et puis, surtout, j'ai eu la chance de travailler au bâtiment de France, puisqu'en fait, j'ai fait mon premier stage en Doug. Oui, c'est ça, en deuil. À l'époque, en 2005, avec Alain Vernet, qui était architecte des bâtiments de France à l'époque, Sophie Loubin, ce qui l'est toujours d'ailleurs. Et ça a été un premier déclic, parce qu'en fait, je me suis promenée avec Bruno Cosme, Raoul Monnier, on est allé se promener dans la campagne montpelliéraine. Pour moi, en fait, tout ce qui était culturel était à l'extérieur de chez moi. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'adorais le patrimoine, mais celui du Val-de-Loire, celui de la Bourgogne, celui de l'Aquitaine, mais j'aurais jamais regardé mon territoire. Et là, je suis partie en tournée avec eux pour aller voir les chantiers, pour rencontrer les élus. Et d'un coup, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais en fait, ici, il y en a aussi. Et il faudrait peut-être s'en occuper aussi. Et sur l'aspect médiation, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Et à partir de là, ça a commencé
d'accord. Il y a quelque chose qui s'est dessiné.
Voilà.
Alors, je précise, bon, architectes des Bâtiments de France sont des services de l'État qui sont en charge du patrimoine, notamment des monuments classés, pour que les auditeurs s'y retrouvent.
Et de notre
donc,
ville.
Donc, c'est ce travail, je dirais, de veille attentive, parfois jugé comme étant une contrainte inacceptable, mais qui fait partie quand même du domaine, du champ de votre compétence.
Tout à fait. Après, sachez que s'ils sont vus comme une contrainte, c'est parce qu'ils sont là, enfin, ils sont sollicités généralement trop tard. Ah. En fait, si on les appelle en amont des projets,
avant que le premier crayonné du projet sorte d'un
exactement, ils préfèrent être largement associés au démarrage pour donner justement des orientations, pour pouvoir aider approprié aussi, parce que ce rôle de transmission que je me suis, moi, du coup, approprié, le leur, c'est ça, c'est de transmettre aussi. Et ils aiment ça, et ils préfèrent largement être pris bien en amont que d'arriver justement et être celui qui dit non à la fin.
Donc c'est ça, c'est du coup cette anticipation qui est déterminante. Alors, je l'ai dit, bon, il y a votre parcours d'études et votre positionnement professionnel et vos activités d'aujourd'hui, hein, le conseil, la médiation, vous l'avez évoqué, la formation, l'accompagnement, principalement pour les professionnels, mais pas seulement. Comment s'est fait ce chemin-là, là aussi, avec une activité professionnelle aussi qui n'avait pas de véritable équivalent, en tout cas, qui était assez rare, en tout cas chez nous, à Montpellier. Ouais.
Alors, ça,
vous avez inventé un peu un métier,
oui,
quoi, en tout cas.
Oui, exactement, c'est ça. En fait, mais c'est une innovation sortie de la recherche, en fait, puisque c'est le constat de ma thèse. C'est-à-dire que quand moi, j'ai travaillé sur la question du conflit dans le cadre des permis de construire, dans le cadre du patrimoine, justement, donc des espaces protégés en particulier, donc des espaces urbains, ce qu'on appelle le patrimoine ordinaire. Notre ville de Montpellier compte plus de 80 monuments historiques, mais il y a énormément de bâtiments qui ne sont pas protégés au titre d'eux-mêmes, mais parce qu'ils sont dans un plan de sauvegarde. Et en fait, dans ces espaces-là, bah voilà, ça arrive souvent que le propriétaire ne soit pas d'accord avec l'architecte des bâtiments de France ou avec le maire, ou que le maire ne soit pas d'accord avec l'architecte des bâtiments de France. Bref, il y a pas mal de conflits. Et de là, en fait, j'ai cherché pourquoi il y avait ces conflits-là. Et le résultat principal, parce qu'il y a plusieurs paramètres, il y a le fait qu'on ne soit pas du même secteur, il y a le fait qu'on n'ait pas le même âge, il y a le fait qu'on n'ait pas la même formation.
Ou les mêmes intérêts.
Voilà. Mais le principal, c'est le socle culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas la ville à l'école. On ne sait pas ce que c'est que l'histoire urbaine, en fait. On apprend l'histoire telle qu'on apprend l'histoire de France. Voilà, moi j'ai ma fille en sixième là, qui parcourt le programme en faisant des sauts de puce. On apprend la géographie, beaucoup de géographie mondiale aujourd'hui, et la géographie de la France de moins en moins. Mais l'histoire de sa ville, en fait, on ne l'apprend pas à l'école.
On n'a pas les repères historiques, notamment, mais, ou esthétiques, qui donnent une clé de compréhension du passé.
De savoir qu'à Montpellier, on avait trois châteaux, par exemple. Il y en avait un premier, Place Pétrarque, le suivant est allé se mettre à la Canongue, que le troisième était l'actuel tribunal et palais de justice. Enfin, des repères comme ça urbains pour comprendre comment la ville a grossi, comment elle est... Et surtout, ça, c'est pour moi un vecteur d'appropriation très fort de l'identité locale. Et donc, quand on se sent plus, j'ai envie de dire, détenteur d'un trésor, bah on a envie de le protéger derrière, ou en tout cas de ne pas y atteindre à son authenticité. Quoi. Et là, moi, pour moi, c'est vraiment un vecteur. C'est plus on en transmet, donc que ce soit aux enfants, que ce soit aux adultes, aux professionnels, plus on a des chances que derrière, ce soit respecté.
Et donc, du coup, c'est la constitution, c'est ça, là, d'un patrimoine connu et partagé, alors qu'il est insuffisamment connu et donc peu partagé.
Exactement.
Y compris quand arrivent les zones, les moments de conflit avec des approches... contraire ou contradictoire, il y a un projet.
Et pour répondre à votre question, pourquoi je fais toutes ces petites piqûres, en fait, c'est que je me suis rendu compte que sur toute la chaîne d'acteurs, du plus petit... Bon, alors l'enfant, bien sûr, moi, c'est surtout par passion que je vais vers eux, mais chez tous les adultes, que ce soit le propriétaire, l'architecte, l'instructeur, le service de l'État qui n'est pas architecte des bâtiments de France, la collectivité locale, le maire, et ben, en fait, tout cela ont besoin de petits compléments culturels pour comprendre. Et donc l'idée de connaissance, c'est ça, c'est de venir... intégrer cette petite brique.
Du lien.
Voilà, et de la connexion.
Et de la connexion.
On y revient.
Très bien. Alors, est-ce que, comment vous pouvez résumer, en direction de gens qui connaissent mal ou pas du tout ça, ce que sont aujourd'hui les enjeux de la conservation du patrimoine ? À quoi, en tant que citoyen, par exemple, et peut-être en tant qu'acteur, vous en avez cité plusieurs, de l'acte d'aménager, de bâtir, et qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre comment... en prenant bien sûr l'exemple de Montpellier, les points principaux qui sont à connaître en définitive.
Alors pour moi, l'histoire urbaine a vraiment une importance clé. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le bâtiment lui-même, c'est sa place dans la ville. Et du coup, essayer de comprendre à quel endroit il se trouve, parce que pour vous donner un exemple, on a travaillé récemment sur un immeuble en haut de la rue Saint-Guilhem, qui était donc juste derrière les Halles et qui se trouve en fait dans une situation où il était à la fois le premier bâtiment derrière le rempart, le premier rempart de Montpellier,
qui était à l'extérieur des remparts,
donc dans le faubourg Saint-Firmin aujourd'hui, qui était également un bâtiment qui a été transformé, remembré, certainement à la période moderne, 17e, 18e, pour en faire un hôtel particulier, et qui a vécu les grands travaux Lazare, donc l'éventration qui est allée avec celle de Foch. Donc l'ouverture de la rue Saint-Guilhem au profit d'aménager des espaces de transport plus facilitants, on va dire, pour les Halles. Du coup, ce bâtiment-là, si on ne sait pas tout ça, le jour où on fait des travaux dedans,
on
découvre, et puis surtout, on risque de se retrouver avec des grosses problématiques de chantier, parce qu'en fait, on va péter un mur, et en fait, derrière, il n'y a pas ce qu'on attend.
Voilà. Ah oui, parce qu'il y a les strates, je ne sais pas, le mot n'est pas exact, mais on se comprend, successives de l'histoire du bâtiment.
Exactement.
Qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, bien entendu, et qu'on découvre quand on intervient dans ce bâtiment-là.
Et là, en fait, moi, ma mission, c'est de gratter tout ça et de le révéler, et l'architecte s'en saisit derrière, et du coup, retravaille à partir de cet état de fait, en fait. Il a une situation de départ. Et pour moi, c'est important vraiment d'aller sur du travail comme ça, assez fin, quand on travaille sur de l'ancien, bien sûr. Quand on est sur du neuf, parce que le foncier se raréfie, la ZAN va faire que la ville va finalement rester là où elle en est. Mais par contre, à mon sens, il y a quand même une histoire de comprendre le territoire dans lequel on s'inscrit. C'est compliqué pour un bâtiment neuf d'avoir une histoire, puisqu'il sort de terre. Alors c'est souvent les architectes, les archicities de la maison de l'architecture, par exemple, racontent ces propos-là. Mais le lieu en lui-même avait une histoire avant. Et du coup, de pouvoir le pérenniser, cette transmission aussi, c'est intéressant.
Et donc du coup, de clarifier cette complexité, hein, en tout cas, hein, plutôt que de passer à côté, donc, soit de, des complications de chantier, ou voire des blocages, ou des oppositions, sur des oppositions sur des bases insuffisamment solides.
Oui, complètement.
D'accord. Alors, c'est votre actualité, comme on dit dans les grands médias. Vous avez conçu un jeu des sept familles, les sept protections du patrimoine, vous l'avez évoqué. Alors, bon, en radio, c'est un peu difficile, mais quelle était l'idée? Quelle était l'idée? Et ça se traduit par un jeu qui est en cours, bon, qui a été conçu, mais dont vous allez nous dire qu'il reste à confirmer sa fabrication et sa diffusion.
Alors, c'est ça.
Voilà, l'idée de départ, l'idée originelle, complexité du maquis, je dirais, réglementaire, législatif et réglementaire.
C'est exactement
qui
ça.
Qui ordonne, je dirais, la protection du patrimoine et donc toutes les interventions qui, directement ou indirectement, peuvent porter atteinte à ce patrimoine.
C'est ça. En fait, moi, je suis partie du principe qu'un sujet est donc aujourd'hui très peu connu et maltraité, c'est les protections du patrimoine, mais au sens réglementaire des choses. C'est-à-dire qu'un monument historique, un site classé, un plan de sauvegarde et de mise en valeur... une zone Natura 2000, non pas forcément, voilà, il y a des mots qui parlent. Vous dites d'ailleurs zone Natura 2000 ou monument historique à quelqu'un, ça parle plus que plan de sauvegarde hein, en général. Et du coup, derrière ça, il y a des règles. Et qui fait ces règles? À quoi ça s'applique? Quels travaux sont concernés? Voilà, tout ça, je voulais le mettre à disposition, mais je voulais pas le mettre à disposition sous un format trop... abrupt,
oui, parce que
un bouquin, personne ne le lira.
Enfin, voilà. Il ne s'agit pas de reproduire les textes
qui existent déjà. On va sur les Gifrance et on a toutes les informations. Ouais, par contre, l'idée, c'était vraiment de travailler à partir donc, d'une idée de jeu. Et je me suis dit, vu que le concept est compliqué, le jeu doit être très simple. Donc, on est parti dans l'idée d'un jeu de sept familles. Tout le monde sait jouer au jeu de sept familles. Et donc, dans ce jeu, ben, on a les sept familles du patrimoine, donc les sept protections en question. Et ces sept protections se déclinent en six cartes. Donc à chaque fois, pour chaque carte, vous avez en gros à quoi il s'applique, quels sont effectivement les travaux concernés, les acteurs qui doivent être mobilisés, une anecdote historique aussi, parce que ces protections-là, on ne sait pas forcément d'où elles sortent.
Donc une mise en situation dans le temps, quoi, historique.
Voilà, exactement. Et puis donc, bah, c'est ce jeu-là, donc aujourd'hui, est effectivement conçu pour la partie texte et images, pour la partie graphique, et il reste à le fabriquer, comme vous le disiez. Et donc aujourd'hui, il y a un financement en cours sur Ulule.
Ulule, c'est une plateforme où on peut mettre de l'argent pour permettre à un projet de se réaliser, d'aller jusqu'au bout.
Hein. Et l'idée, c'est de le préacheter, puisqu'en contrepartie, en fait, vous recevrez le jeu.
Donc d'accord. L'idée, c'est vraiment Ulule, c'est quoi? Et pour ensuite, quand on va sur Ulule, quelle est la dénomination qui permet d'accéder?
Les sept protections du patrimoine.
Les sept protections du patrimoine,
voilà, d'accord. Directement.
Donc on peut mettre ça... Petit au bol.
Voilà. Donc, si vous voulez le jeu.
Vous en êtes où, là, de l'appel à financement?
J'en suis à presque 80%.
Bon, donc, ça va.
Voilà, ça sent bon.
Et c'était quoi? 100%, c'est quoi?
100%, on est à hauteur de 3000 euros pour une première édition limitée.
C'est ça.
Et puis, l'idée, c'est.
L'impression et.
Voilà. Après, le coût du papier a grandement augmenté.
Oui,
et puis, moi, ce que je souhaiterais éventuellement, c'est le proposer à des collectivités de faire des éditions spéciales.
Adaptées,
voilà, avec les photos typiques de chaque territoire. Là, ce serait intéressant.
Très bien.
Donc j'ai quelques contacts.
Ça, voilà, on peut espérer que ça sera disponible dans quelques semaines. Alors.
Voilà, tout à fait.
Et la distribution se fera dans quel
alors,
lieu et...
Pour l'instant, l'édition limitée va être pour ceux qui le préachètent en ligne.
Oui.
Et après, quand on sortira une édition, là, ça peut être fait justement par les collectivités directement dans leur... Alors, principalement, ce serait dans les centres d'interprétation d'architecture et du patrimoine, où ça prendrait le plus de sens, puisque ce sont les musées de la ville, quelque part. Ouais. Et puis après, avoir en ligne, moi, sur le site de Connexence, puisque l'idée, c'était de pouvoir le distribuer aussi.
Très bien. Alors, revenons vers les livres, là, et nos trois héros, là, Guillaume, Louise, j'oublie le troisième.
Augustin.
Et Augustin. Alors, pareil, bon, dites-nous un peu quelle était l'idée, là aussi, vous l'avez évoqué, mais cette incitation à la découverte de la ville dans laquelle on habite... Comment peut-elle être activée en s'adressant aux enfants de 8 à 12 ans? C'était ça, hein, le...
Bah, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'allais regarder le patrimoine ailleurs. Et en fait, ailleurs, on le traitait souvent pour les enfants. Et notamment en Val-de-Loire, j'ai pris beaucoup d'inspiration. Et là, je me suis dit, à Montpellier, ça n'existe pas, ça. Cette histoire racontée aux enfants et cette histoire surtout urbaine. Parce que j'insiste là-dessus.
Oui, parce qu'il y a d'autres...
Voilà, les monuments, on les visite. Il y a énormément de supports jeunesse, pédagogiques déjà réalisés. Mmh. Mais l'histoire de la ville, on n'avait pas de support pour le développer. Donc, on est parti de là avec Sophie Schreurs, qui est donc ma co-autrice.
Qui a fait un travail, je dis, d'illustration qui n'est pas anecdotique, je dirais, qui apporte un complément d'information.
Exactement, il y a tout un travail de recherche derrière, au-delà du talent graphique, il y a vraiment... elle recherche à la fois sur les bâtiments, sur les costumes, sur les périodes, sur voilà. Donc on a, y a donc les trois parcours, ces trois parcours à différentes périodes, du coup, période médiévale, période moderne, classique, et puis période post-révolutionnaire jusque, on va dire, à aujourd'hui, puisqu'on va jusqu'à Antigone dans le dernier. Et l'idée, c'est de voir un peu d'où la ville est partie, comment elle s'est constituée, comment elle s'est construite. Découverte des quartiers, des noms de rues aussi, parce que ça aussi, dans la ville, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est lire le nom des rues.
Oui, la toponymie.
Et ça, c'est intéressant. Alors, l'odonymie pour le nom des rues et la toponymie pour le nom des lieux.
Ah oui, je ne connaissais pas le mot. Odonymie, d'accord.
Voilà. Et effectivement, vous lisez maintenant, si vous passez dans un village,
ce sont des chats, là, qui servent de guide.
Oui, tout à fait. Trois petits chats.
Trois petits chats qui se baladent.
Comme dans la chanson.
Bon, il y a les trois grâces sur la place de la comédie. Il y a les trois chats pour ces parcours. Donc, dans le livre reste disponible en librairie.
Oui, là par contre, il est...
Il est utilisé dans les classes, parce que ça va servir bien sûr de document pédagogique. Bon, l'instituteur ou le maître peut organiser deux, trois parcours ou déambulations successives en s'appuyant.
Et il est distribué à l'Office du tourisme pour les touristes également, puisque depuis...
Oui, parce que ça peut servir aux adultes, tout compte fait, voilà, parce que c'est...
Exactement.
Il y a de l'info, quoi, c'est pas...
Ah oui, j'ai pas mal de...
Non. C'est un format en largeur.
Pas mal d'adultes.
Genre carnet avec... une spirale qui peut permettre d'utiliser le carnet, de laisser la page ouverte pendant son parcours, donc ce côté... pratique.
C'est le carnet de visite. Il a été conçu comme ça.
Carnet de visite. Très bien. Et alors, j'imagine que, vous avez d'autres projets dans les tuyaux, d'autres idées. Alors,
oui.
Sans révéler, ce qui serait encore un peu incertain, voire à travailler, dans cette veine-là de transmission, quelles sont les autres idées que vous mûrissez?
Alors, je dirais la plus concrète qui est en cours, c'est le même ouvrage, même type d'ouvrage jeunesse sur Canet en Roussillon, toujours avec Sophie.
Une architecture très différente.
Architecture principalement de l'époque du royaume de Majorque.
Ouais.
Et donc là, c'est intéressant parce que...
C'est quelle époque, le royaume de Majorque?
On est sur la du 13e, 14e siècle.
Alors, la Tour des Pins, c'est la même époque qu'à Montpellier, là. D'accord,
voilà,
c'est ça.
Hein. Oui, puisque la commune clôture, chez nous, c'est la période de Jacques d'Aragon. Donc, et on a, du coup, c'est un petit lion, cette fois-ci, qui accompagne, donc, puisque c'est l'animal totémique de la ville. Autre projet...
Le sorti probable de ce travail sur quelle année ?
Normalement, rentrée scolaire 2023.
Ah, d'accord, c'est dans les tuyaux. Donc.
Voilà, oui. Et puis, alors, du coup, ce sera avec... l'illustratrice de Montpellier, donc Sophie Schreurs, et la graphiste du jeu de société, Marielle Fanstein.
D'accord, qu'il fallait citer, d'accord.
Voilà. Et puis après, sur les autres projets professionnels, j'ai un projet d'autres jeux, mais qui serait un jeu plutôt format atelier, cette fois-ci, pour comprendre comment on met le patrimoine dans le plan local d'urbanisme.
Ah, d'accord. Alors le plan local d'urbanisme intercommunal est en cours de révision, là. J'ai travaillé là-dessus avec une autre de mes activités. Il doit être voté en 2024. Les réunions de consultation ont lieu dans les communes, la métropole concernée. Ça vient, le tour de Montpellier viendra. Donc, vous êtes associé là aussi à cette démarche.
Alors, pas encore, mais je dois rencontrer les élus prochainement. Donc, voilà.
Oui, parce que là aussi, il y a un enjeu de donner à comprendre ce dont il s'agit et surtout des nouvelles orientations politiques, pour le coup, de comment on traite, on organise, on gère le territoire, comment on consomme moins de foncier et comment...
Montpellier est un peu un modèle particulier sur le plan local d'urbanisme en termes de patrimoine, puisqu'en fait, il a vraiment joué la carte de la complémentarité avec les autres documents d'urbanisme patrimoniaux, justement. Donc, il prend en compte...
Une prise en compte,
complémentaire, quand ce n'est pas fait par l'État, finalement, le plan local d'urbanisme le fait.
Alors, ça me paraît intéressant, parce que ce que j'ai compris du plan local d'urbanisme, c'est que c'est une projection vers le futur. Comment on pense le territoire à 5, 10, 20 ans, parce qu'on ne le fait pas pour 3 mois.
Oui, tout à fait.
Et donc, là aussi, avec cette idée de rester connecté, pour reprendre votre mot, sur l'histoire, sur le passé de la ville.
Oui, l'idée, c'est de voir si, en fait, alors, ce n'est pas une protection par la ville, c'est vraiment une prise en compte, un repère. Le plus souvent, dans les plans locaux d'urbanisme, on identifie. Si on réglemente, il y a des PLU qui vont jusqu'à la réglementation. Ça va être sur du règlement de hauteur, de prospect, d'espace par rapport au voisinage, des choses comme ça, où on va faire en sorte de garder des gabarits.
Oui.
Après, il y a des bâtiments qui sont identifiés et qui ne sont protégés par rien aujourd'hui. et qui du coup sont amenés à être vraiment un peu plus protégés sur l'identité architecturale. Mais c'est rare aujourd'hui qu'à Montpellier, quelque chose soit passé dans les trous de la raquette de l'État, quand même.
D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Alors, je pense que ça va permettre à nos auditeurs de lever le nez, comme on l'a dit au
J'espère.
Début.
J'espère.
Et peut-être aussi d'être dans cette attitude, je dirais, de curiosité active, y compris quand ils seront, à divers titres, acteurs des futurs aménagements, des futures constructions.
Mais quand ils achètent, ne serait-ce que ça.
Voilà.
Et
de regarder comment la ville bouge, et, en étant, pour le coup, dans ce rapport de citoyenneté, me semble-t-il, avec la ville. Merci
Tout
beaucoup.
À fait. Merci à vous.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.